Bonjour à tous. J'aimerais d'abord commencer par m'excuser parce que je n'ai pas eu une bonne voix ce matin. Et comme on le dit en français, j'ai chopé quelque chose pendant la semaine qui m'a fait mal à la gorge. Mais en d'autres termes, je dirais que j'ai prêté ma voix aux anges pendant la semaine. Donc le Seigneur est avec nous. Donc j'aurai à tousser parfois, mais excusez-moi pour cela. Alors, le thème de ce matin, nous sommes dans Philippiens chapitre 4, à partir du 10e jusqu'au 23e verset, comme nous venons de le lire ce matin. Et c'est un passage qui parle de la joie. J'ai un peu eu du mal à pouvoir parler de ce thème cette semaine, puisqu'on vit des situations difficiles. Mais le thème, c'est la joie en Jésus-Christ dans la vie chrétienne. Et il s'agit ici d'une lettre que Paul est en train d'écrire à ses bien-aimés de Philippe. Et il est en train d'écrire dedans qu'il est dans la joie. Mais lui-même Paul, il est dans des situations difficiles. Donc la Bible nous dit qu'il est en prison. Il est en prison, mais il écrit une lettre de joie. Certainement, à l'époque, je ne sais pas. Comment étaient les prisons de l'époque? Et certainement, il a vécu aussi des choses qu'on est en train de vivre ces temps-ci. Mais malgré qu'il soit en prison, il dit qu'il est dans la joie. Je suis dans la joie, je me réjouis, c'est ce qu'il dit. Mais cette joie qu'il écrit suscite en nous quelques questions. On se dit... Mais comment Paul pouvait-il se réjouir dans cette circonstance? Quelle était la raison profonde de sa joie, malgré qu'il soit en prison, malgré qu'il soit dans des situations difficiles? Et les prisons de l'époque, parfois, c'était la persécution, on tuait les gens, voilà. Quelle était la raison de sa joie? Et qu'est-ce que Paul a à nous apprendre aujourd'hui par son attitude face à l'adversité de la vie? Et c'est par ce texte que nous allons découvrir les raisons profondes de la joie de Paul. Et la raison évidente de cette joie, Paul commence d'abord par quelque chose qui vient des Philippiens. C'est leur bonté, c'est la générosité. Déjà au verset 10, il dit ceci, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. » de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc on voit ici qu'ils avaient l'habitude de le faire, mais à un certain moment ils se sont arrêtés et l'occasion manquait. Pourquoi cette occasion manquait? Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés? Pourquoi ils pensaient à cela, mais à un certain moment ils se sont arrêtés? On ne sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais peut-être qu'eux aussi, ils avaient peur de continuer à faire des dons. Peut-être qu'ils avaient peur, ils n'avaient plus de nouvelles. Peut-être qu'ils croyaient que Paul était déjà mort. Ils avaient aussi peur de cela. Mais voilà qu'un jour, l'occasion se présente aux Philippiens d'exprimer leur affection envers Paul. Et malgré cela, ils se trouvaient dans une occasion très difficile, une position vraiment difficile. Et cet acte de générosité et d'affection a l'air droit dans le cœur de Paul. Il est vraiment reconnaissant pour cela, pour cette générosité, pour ce bien-là, pour ce don qu'ils ont envoyé. Et Paul est dans la joie, pas seulement à cause de ce don, mais à cause des bienfaits des Philippiens. Nous éprouvons tous parfois une générosité lorsqu'on est l'objet d'un acte de générosité. Et c'est ce qui nous amène aussi parfois à avoir de la joie. Et Paul ici est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on lui a envoyé quelque chose, un don. Mais il n'y a pas seulement cela. Sa joie est encore plus profonde à cause du progrès de l'Évangile dans la vie des Philippiens. Ce qui veut dire encore la croissance de l'Église. Le don que Paul a reçu des Philippiens le comblèrent sans aucune mesure. J'ai tout reçu, c'est ce qu'il dit au verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant de la part d'Épaphrodite, ainsi de suite. Mais le regard de Paul sur le don des Philippiens allait donc bien au-delà de ce caractère matériel. Ce n'était pas seulement ce don-là, mais il percevait en eux la réalité et la grandeur de l'amour de Dieu dans leur cœur. Parfois, je me dis, lorsque nous sommes parfois dans des trains ou bien dans le métro et que nous voyons des gens qui viennent nous demander, voilà, j'ai besoin. Je ne sais pas si ces personnes à qui on donne quelque chose, on donne un don, sont contents parce qu'on leur a donné ou bien ils sont contents parce qu'on a pensé à eux. On ne sait pas très bien déterminer cela parfois. Mais ici, Paul était content, était dans la joie à cause de la générosité, à cause de ce bienfait. Ce n'était pas seulement le don, il y avait le don, mais c'était un bienfait. Et il voyait en cela la réalité et la grandeur de l'amour du Christ dans le cœur des Philippiens. Et c'est pour cela qu'au verset 14, il disait, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Donc ce qui veut dire qu'il considérait avoir reçu ses biens en tant que serviteur de Dieu. Mais il y a aussi au verset 18 où il affirme que c'est directement à Dieu que l'offrande a été faite. C'est directement à Dieu que ce don a été fait. Et c'est pour cette raison qu'il reprend le terme sacrificiel de l'Ancien Testament, un parfum de bonne odeur qui rappelle le sacrifice qui consumait et répandait le parfum de bonne odeur à l'Éternel. Et tous ces qualificatifs, bien-aimés, montrent combien la participation à toute œuvre de l'Éternel, à toute œuvre de Dieu, a non seulement un prix de valeur devant Dieu, mais aussi cela est un signe du progrès spirituel dans notre cœur. Lorsque nous nous manifestons dans l'œuvre de l'Éternel, c'est un signe du progrès spirituel dans notre cœur. L'Église progresse spirituellement quand elle prie. L'Église progresse spirituellement quand elle médite tous les jours la parole de Dieu. L'Église progresse spirituellement quand tous les membres sont d'un seul cœur envers les uns, envers les autres. Et l'Église progresse spirituellement lorsque les gens sont honnêtes au sein de l'Église, comme nous l'avons vu ici. Épaphrodite était honnête, il a emmené ce don et il est allé le transmettre sans enlever une partie. Et l'Église progresse spirituellement quand les gens font des dons aussi à ceux qu'on connaît et à ceux qu'on ne connaît pas. Quand l'Église partage avec ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Quand l'Église partage ou évangélise les gens qu'on ne connaît et ceux qu'on ne connaît pas du tout. Il y a progrès spirituel de l'Église ici. Et notre capacité à donner dans l'Église, matériellement ou financièrement, pour l'œuvre du Seigneur est un critère d'évaluation de la profondeur de notre relation aussi avec notre Dieu. Mais dans tout cela, Paul ne voit pas seulement, il voit la présence, malgré sa présence en prison, le fait qu'il soit, peut-être aussi qu'il était en deuil tous les jours, parce qu'il voyait ses amis mourir en prison. Il voyait des gens être vraiment dans des situations très difficiles. Mais sa présence en prison n'a pas bloqué l'évangélisation. La parole de Dieu n'était pas enchaînée. Nous voyons qu'il est lié comme un vulgaire bandit, mais Paul était émerveillé par le fait que l'évangile ne soit pas lié. Bien-aimés, la parole de Dieu est libre, elle progresse et elle produit des fruits de l'amour. La parole de Dieu était en progression. C'est pour cela que lorsque nous allons au verset 21, la partie B, verset 22, verset 21, la partie B, « Les frères qui sont avec moi vous saluent. » Qui sont ces frères? C'est-à-dire, ce sont des frères qui étaient avec lui en prison. Et en plus, il les appelle les saints. Hein? Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Donc, ce qui veut dire que dans la cour où il était, dans la prison où il se trouvait, il avait aussi travaillé, il avait pu aussi évangéliser, il avait pu aussi saisir les gens, il avait pu toucher aussi les gens qui étaient dans les douleurs, qui étaient dans les problèmes. Et nous voyons que la parole de Dieu, elle est libre, elle progresse, elle produit des fruits d'amour et de générosité, la liberté aussi, de liberté. Et cela était une grande source de joie dans la vie de Paul. Et cela devait être aussi une grande source de joie dans notre vie aussi, de toucher tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, d'apporter la bonne nouvelle. Bien-aimés, la Bible nous dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Et la parole de Dieu nous dit aussi que dans un champ, il y en a un qui va planter, un autre va arroser. Et le fait de faire croître, c'est à lui-même l'Éternel de le faire. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur de pouvoir partager la bonne nouvelle, de pouvoir faire convertir les gens et leur annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Car la parole de Dieu, elle demeure toujours, elle restera à jamais. Aujourd'hui, nous pouvons trouver des gens, à la télévision, beaucoup de documentaires, dire que non, au début, il y avait ceci, à la fin, il y avait ceci. Non, la Genèse, ce n'était pas vraiment ça, mais ceci, ceci. Bon, ce sont des gens qui sont nés en 1900, peut-être 45 ou je sais quand, et ils mourront peut-être un jour, mais la parole de Dieu, elle restera toujours, et il y aura toujours des gens qui vont parler autour de cela. La parole de Dieu, elle demeure et elle est la vérité, elle est spirituelle et elle progresse, elle nous fait progresser dans la vie. Et une fois de plus, la préoccupation majeure de Paul n'était pas la satisfaction de ses propres besoins, mais c'était le progrès spirituel, d'abord des Philippiens, de l'Église et aussi de ceux qui étaient en prison. Donc il annonçait aussi une bonne nouvelle aux Philippiens que non, ceux qui sont ici avec moi aussi ont reçu la parole de Dieu et ils vous saluent au nom de Jésus-Christ. C'est ça que Paul voulait enseigner. Il indique au verset 17, « Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. » C'est le bien des Philippiens qu'il cherche et il exprime en langage aussi financier. Donc le fruit ici désigne aussi les intérêts. Et dans tout cela, si seulement nous pouvions comprendre que chaque fois que nous faisons de bien dans l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire aller vers les gens que nous ne connaissons pas pour leur partager la bonne nouvelle, pour construire ce royaume, sous quelque forme qu'elle soit, nous augmentons notre capital auprès du Seigneur. Nous comprendrons que donner ou se donner dans l'œuvre du Seigneur, être en relation avec lui n'est pas une contrainte, mais c'est une grâce aussi. Et au verset 19, nous voyons ici, Paul dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec joie en Christ. » Paul qui a fait l'expérience de la fidélité de Dieu, c'est que Dieu accorde bien au-delà de ce qui a été remis. Et il pourvoira à tous nos besoins, aux besoins des Philippiens ou aux besoins de ses enfants aujourd'hui. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Bien-aimés, nous ne devons pas faire confiance à ce dont nous avons, ce que nous possédons. Nous ne devons pas seulement faire confiance à notre porte-monnaie. Nous ne devons pas faire confiance seulement à nos comptes bancaires. Nous ne devons pas seulement faire confiance à ce que nous possédons pour faire l'œuvre du Seigneur. Ici, on nous dit « Et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Donc, c'est Dieu qui est riche. Et la Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartient. Nous devons faire confiance en Dieu. Et dans la Bible aussi, il y a un moment où on nous parle que Jésus-Christ était entouré de beaucoup de gens qui avaient faim. Et les disciples leur disent, mais comment est-ce que nous allons faire pour nourrir tous ces gens? Ils viennent à Jésus-Christ, mais comment est-ce que nous n'avons même pas d'argent? On n'a rien du tout. Ils ont regardé leur compte. Ils ont regardé certainement à l'époque leur compte bancaire ou bien je ne sais pas quoi. Et quelqu'un vient avec deux poissons et quelque chose, voilà, qu'est-ce que nous allons faire, on ne sait pas. Si c'était aujourd'hui, certaines personnes diraient, bon, voilà, allez-y d'abord, prochainement, on verra. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a prié. Jésus-Christ a prié. Et c'est le modèle que nous devons faire dans des situations difficiles. C'est ce que nous devons faire. Et Paul le savait aussi. Jésus-Christ s'est mis à genoux et il a prié. Et après, il y avait une solution. Je ne veux pas trop en parler comment ça s'est fait, mais il y a eu une solution pour cela. Bien-aimé, et mon Dieu, et notre Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Celui qui sait tout ce dont nous avons besoin, celui qui sait ce que nous pouvons faire, et il nous donne la force dans tout cela. Et c'est pour cela qu'il finit à la fin, au verset 20, il donne gloire à Dieu, à notre Dieu le Père, qui accomplit toutes ces choses en vous, en nous, soit la gloire au siècle des siècles. Il glorifie l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Et jusque-là, bien-aimés, nous voyons qu'il y a eu deux raisons de la joie de Paul. D'abord, il se réjouit à cause de la bonté des Philippiens, de la générosité des Philippiens, mais aussi c'est parce que Dieu est en action dans l'œuvre, bien-aimés. Tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas en vain, mais Dieu est en action. Il y a croissance de l'Église et aussi il y a croissance des frères qui connaissent Dieu là où il était en prison. Donc la première chose, c'est qu'il se réjouit à cause de la bonté, de la générosité, et Dieu est en action aussi. La deuxième chose est en action parmi eux, donc la croissance de l'Église. Mais nous avons encore une autre raison qui fait en sorte que Paul puisse se réjouir malgré les situations difficiles. C'est qu'il avait appris à être content. Au verset 11, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je vais bien le relire ici au verset 11. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés, nous voyons ici que Paul savait s'adapter même dans les conditions difficiles. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire aussi. Aujourd'hui, nous parcourons des situations difficiles et nous devons faire face à cela. Nous ne devons pas nous arrêter pour avoir peur dans tout cela. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à proclamer le nom de Jésus-Christ. Nous devons continuer à célébrer ce nom-là. Et nous voyons que Paul ici nous montre qu'il était dans la joie, parce que malgré la prison, malgré les situations difficiles, il avait déjà vécu ça. Il sait, donc il n'avait pas peur de tout cela. Et au verset 12, il développe un peu sa pensée. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. » Donc, ce n'était pas quelqu'un qui criait famine en tout moment. Le parcours de la vie de l'histoire de Paul, nous voyons qu'il a beaucoup vécu dans des difficultés. Et même, il y a des passages qui parlent qu'il était même malade. Je sais vivre dans l'humiliation. Il avait appris que tout pauvre qu'il était, il pouvait être une source de richesse pour les autres. Et mieux même qu'il n'avait rien, il confessait posséder toute chose. Et c'est pour cela qu'il soutient le verset de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Il exprime cette double réalité dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10, qui nous dit ceci: « On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. On nous croit pauvres et nous faisons beaucoup de riches. On nous croit dépourvus même de tout, alors que tout nous appartient. Il avait une conscience aiguë de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui lui suffisait pleinement dans tout ce qu'il faisait. Et même 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il en dit aussi, il dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que sa pauvreté vous soit, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » La grâce de Dieu bien-aimé est là parmi nous, malgré les difficultés que nous avons. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés ou bien il est dans l'écart. Mais sa grâce est parmi nous, que nous soyons dans des situations difficiles ou que nous soyons dans la joie. Et même nous continuons de voir ici que Paul a appris, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Dans l'abondance, Paul avait compris que les richesses étaient des choses passagères et même éphémères. Il avait appris à ne pas mettre son espérance dans les biens matériels. Au contraire, toute sa vie enseignait la nécessité de la foi et la confiance en Dieu. Il avait confiance en son Dieu et à tout moment, il mettait Dieu à la première place. Paul ici nous montre combien il était dans la joie parce qu'il pouvait bien vivre dans toute situation, que ce soit dans la maladie ou dans la bonne santé. Et aujourd'hui, ce matin, je poserai la question, quelle est ton attitude aujourd'hui quand tu prospères dans ta vie? Quelle est ton attitude quand tout est bien dans ta vie? Et quelle est ton attitude aussi quand tout va mal dans ta vie? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu gardes toujours cette relation avec ton Dieu ou bien tu faiblis? Quelle est ton attitude lorsque tu prospères, lorsque tout va bien, lorsque tout progresse dans ta vie? Bien-aimés, nous devons toujours mettre Dieu à la première place, même quand tout va mal. Et parfois, quand il y a quelque chose qui va mal dans notre vie, c'est que Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. C'est pour cela que nous ne devons pas faiblir. Nous devons toujours être dans la joie. Nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Sa présence nous réjouit. Et ainsi, durant toute sa vie difficile, Paul pouvait tout faire par la force que le Christ lui communiquait. Et Christ était la source de sa joie. Ce n'est pas qu'il s'efforçait à être joyeux, mais cette joie était une conséquence de la vie spirituelle épanouie en Christ. Et c'est ce qui doit aussi se manifester en nous. Nous devons placer notre confiance en Dieu qui peut nous délivrer et de mettre en nous la joie en Christ malgré les situations difficiles que nous traversons. Et tout cela, nous pouvons avoir aussi le pouvoir, la relation avec le Christ, nous pouvons avoir aussi le pouvoir de supporter et même de dépasser toutes les situations lorsque nous sommes en Christ. Et c'est ce que Paul était. Il était en prison, mais il pouvait dépasser tout cela parce que Christ était avec lui et il voyait l'œuvre du Christ en lui. Et c'est Christ seul qui peut nous rendre forts. C'est Jésus-Christ qui nous rend forts. Il nous donne de la puissance, il nous donne de l'aide à vivre sans pour autant se détacher de l'humanité. La force vient de notre Jésus-Christ. Et nous pouvons aussi, dans tout cela, lorsqu'il y a des situations difficiles, nous avons entendu des témoignages, faire appel aussi à Christ, faire appel à la force de Christ en nous pour qu'il nous aide à retrouver la paix. Malgré les situations difficiles, faire appel à la force de Jésus-Christ pour retrouver la joie qui était avant. Faire appel à la force de Christ qui surpasse toute intelligence dans notre vie. Et en conclusion, je dirais que l'apôtre Paul a expérimenté dans sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ une profondeur sans pareil. Il savait, il connaissait le Christ à fond. Et Paul ici se réjouissait, il était dans la joie. Pourquoi? À cause du progrès de la foi et de la croissance de leur amour les uns envers les autres. Il rend même grâce pour cela. Il était dans la joie de voir comment ces gens pensaient à lui. Il était dans la joie de voir comment l'Église progressait dans tout cela. Et Paul se réjouit aussi à cause de cette captivité, de cette situation difficile qui fait en sorte que la prison qu'il était, il a fait en sorte qu'il puisse évangéliser et pouvoir... C'était une occasion exceptionnelle pour l'avancement de l'évangile, ce que je pourrais dire. Et Dieu utilise toute occasion dans notre vie, bien-aimée. Il n'attend pas seulement que nous soyons bien, que nous soyons riches, que nous ayons des je ne sais pas quoi. Il n'attend pas cela, mais il utilise toutes circonstances de notre vie, même la plus dramatique, pour nous faire progresser dans sa relation avec lui, pour faire progresser même l'Église spirituellement et pour faire aussi avancer son royaume dans le monde. Il utilise tout ce qu'il veut. Et lorsque nous parcourons la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, la plupart des choses, il utilisait des gens qui étaient inutiles. Bon, ça c'est mon expression. Des gens qui n'avaient rien à voir avec la situation de la ville. Des gens qui étaient négligés. Voilà, c'était ça sa stratégie. Il a même, avec Jean-Baptiste, je ne sais pas si c'est Élie ou Jean-Baptiste, qui était nourri par des corbeaux. Voilà. Comment Dieu pouvait-il ? Et pourtant, le corbeau était un aliment impur dans l'Ancien Testament. Mais Dieu fait ce qu'il veut, voilà. Il peut m'utiliser moi, il peut t'utiliser toi. Il fait ce qu'il veut, que tu sois dans des bonnes conditions ou pas. L'essentiel que l'Évangile progresse et il fera cela dans ta vie. Et aussi, Paul est dans la joie ici. Il démontre aussi l'importance de la joie du Christ, Jésus-Christ en nous. Quelles que soient les circonstances de la vie, que nous soyons dans des difficultés ou pas, cette joie doit être le produit de la force de Christ en nous. Et si la force de Christ agit en nous, nous pourrons alors dire avec Paul que je peux tout, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Qui est cette personne qui nous fortifie? C'est Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est avec nous, nous pouvons tout faire pour l'avancement de son œuvre. Nous ne devons pas avoir peur, bien-aimés. Nous pouvons le déclarer que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous découvrons alors la joie en Christ dans la vie chrétienne. Nous pourrons alors aussi percevoir le côté positif des événements de notre vie. Et pour avoir cette joie en Jésus-Christ, bien-aimés, ce que je vous recommande, c'est de faire confiance au Seigneur. La première chose, faire confiance au Seigneur pour retrouver cette joie. Je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont attristés à cause des événements, mais comment faire pour retrouver cette joie? C'est de faire confiance en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est aussi accepter les choses telles qu'elles sont et pas comme nous voudrions qu'elles soient. Parfois, on aime aussi imposer à Jésus-Christ ce que nous voulons. Mais d'abord, que la volonté de Dieu soit faite, c'est ce que nous disons dans nos prières. Et lorsque nous mettons Dieu à l'avance, c'est à ce moment-là qu'il pourra nous bénir aussi. Et la troisième chose, bien-aimés, voyons les épreuves dans la perspective de Dieu. Nous devons voir les épreuves aussi dans la perspective de Dieu et être aussi attentifs. Parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous enseigner à travers les épreuves. Et c'est à ce moment-là que nous verrons alors la joie de Christ nous inonder et sa force agir en nous tous les jours pendant notre vie. Amen. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Merci Éternel parce que tu es le Dieu de paix. Merci Éternel parce que tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Et même dans ta parole, tu nous dis que tu es riche en bonté et même lent en colère, Seigneur. Oui, Père Éternel, ce matin, nous pouvons aussi compatir, Seigneur. Peut-être que nous pouvons avoir cette joie qui est perdue en nous à cause des situations qui nous entourent. Peut-être que nous pouvons avoir de la haine contre toutes ces choses qui se passent, Seigneur. Mais Père éternel, nous nous humilions devant ta face. Nous savons que par l'amour, par ton amour, Seigneur, tu sais comment consoler toutes ces personnes qui ont été touchées. Et même, tu peux aussi nous consoler, nous qui avons été touchés, Seigneur. Et tu peux aussi nous redonner de la force pour pouvoir continuer à partager ta parole, Seigneur. Père éternel, merci parce que tu es parmi nous et c'est toi qui es le responsable de l'Église, Seigneur. À tous ceux qui s'engagent, Seigneur, pour pouvoir te servir, Seigneur, tu donneras la joie de pouvoir te servir malgré les conditions difficiles, Seigneur. Comme Paul nous le montre ce matin, ton serviteur Paul nous le montre ce matin, qu'il était dans la joie malgré les situations difficiles. Et même les situations difficiles qu'il avait, Seigneur, il pouvait encore continuer de partager ta parole. Père éternel, que ton nom soit loué à jamais. Donne-nous de la force, Seigneur, et donne-nous de la joie. Et toi seul, Seigneur, puisse apaiser nos cœurs, Seigneur, plein d'amertume, Seigneur, plein de tristesse et parfois plein de peur aussi. Père éternel, que ton nom soit loué et que ton nom soit béni. Merci parce que tu es avec nous et que tu continueras toujours avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.